Radio Kapi.
Le journal avec Patience Ngalula.
À la une de cette session d'actualité, 172 cas de paralysie flasque aiguë sont notifiés dans les Haut-Katanga depuis le début de cette année. À l'heure actuelle, toutes les 27 zones de santé sont touchées, chacune par au moins un cas. En Ituri, l'armée met en garde les groupes armés qui tenteraient encore de troubler l'ordre public. C'est au lendemain des violents combats qui ont opposé des groupes armés à Pluto, ayant occasionné ainsi la mort de 26 personnes, dont 6 militaires des FRDC. L'invité de ce journal est le maire de la ville de Goma. Le commissaire supérieur principal Faustin Kapend Kamand revient sur les causes de la montée de l'insécurité ces derniers temps dans sa juridiction. Bonjour à toutes et à tous. Ce journal part du Haut-Katanga où 172 cas de paralysie flasque aiguë sont notifiés depuis le début de cette année 2024. Les échantillons envoyés à l'INRB sont tous négatifs. Les responsables du programme élargi de vaccination dans les Haut-Katanga demandent aux parents d'amener dans des structures médicales les enfants qui présenteraient les signes de paralysie des membres supérieurs ou inférieurs. Jean Gandou pour les détails.
À l'heure actuelle, ce sont toutes les 27 zones de santé qui ont notifié au moins un cas de paralysie flasque aiguë. Le premier a été enregistré au mois de janvier 2024 dans la zone de santé de Ruachi à Lubumbashi, qui compte à ce jour 46 cas. Les autres zones de santé qui ont aussi beaucoup de cas sont notamment Mufunga et Kenya avec chacune 11. L'âge de la plupart des victimes varie de 0 à 5 ans. Il y a aussi celles qui ont plus de 10 ans. Jusqu'à présent, aucun cas de décès n'a été signalé, rapporte le médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination dans le Haut-Katanga. Dr Blaise Kalenga précise aussi que tous les échantillons prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa sont négatifs. Ainsi, il demande aux parents qui constateraient que leurs enfants qui marchaient ou qui rampaient ne les font plus, de vite les amener directement dans les structures médicales pour une bonne prise en charge. En outre, ils doivent respecter le cycle complet de vaccination. Pour sa part, le médecin chef des zones de santé de Ruachi se félicite du travail abattu par les cellules d'animation communautaire ainsi que les relais communautaires pour retrouver tous les cas notifiés. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Santé toujours, après la province du Tanganyika, les programmes élargis des vaccinations PEV élargit la cible des vaccinations contre la polio jusqu'aux enfants âgés de 15 ans dans deux autres provinces, à savoir les Haut-Katanga et les Haut-Lomami. Cette annonce a été faite par la coordonnatrice du comité des opérations des urgences de la lutte contre la poliomyélite, CUP en sigle, lors d'une conférence de presse ce mercredi à Kinshasa. Selon Dr Elisabeth Mukamba, il a été constaté lors de la récente campagne de vaccination de juin dernier, une résurgence des cas de polio des types 1 et 2 chez les enfants ayant plus de 5 ans dans ces trois provinces. Ainsi, a-t-elle invité les médias à produire des émissions, articles, reportages et interviews pour sensibiliser les parents en particulier et la population en général à faire vacciner leurs enfants âgés de 0 à 15 ans lors de la prochaine campagne de vaccination contre la polio au début du mois d'août prochain. Dr Elisabeth Mukamba s'est confiée au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
On a noté qu'au-delà des enfants de moins de 5 ans, il y a des enfants de plus de 5 ans qui ont développé la paralysie. Et lorsqu'on regarde la localisation, c'est essentiellement dans les trois provinces que sont le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Tanganyika. Et de ce fait, on ne peut pas non plus baisser les bras et se dire qu'il ne faut rien faire pour cette catégorie. C'est ainsi que dans ces provinces, de manière particulière, on vient de le faire au Tanganyika, on est allé jusqu'à vacciner les enfants de 15 ans. Et si nous, dans les données épidémiologiques, nous notons qu'il y a des cas chez les adultes, le pays va ouvrir la voie à la vaccination même des adultes. Des médias, nous attendons que les émissions de sensibilisation sur la vaccination de manière globale, mais aussi, comme c'est le cas, la vaccination contre la polio sous forme de campagne.
En Ituri, tous les groupes armés signataires d'actes d'engagement doivent cesser immédiatement les exactions contre la population de peur d'être considérés comme des ennemis de la paix. Déclaration de l'armée devant la presse ce dimanche à Bounia au lendemain de la mort de 26 personnes, dont 6 militaires de FRDC à Pluto, au nord-ouest de Bounia, dans les territoires de Djougou. Selon les porte-parole de FRDC en Ituri, les forces loyalistes sont déterminées à imposer la paix partout où l'ordre public sera perturbé. Les lieutenants Jules Ngongo l'a dit au micro de Martial Kizabiamungu.
Tous les groupes armés qui essayeront de s'attaquer à nos populations ou à l'une de nos positions, la riposte de forces armées sera impitoyable. Et ceux-là qui continueront à troubler l'ordre public, la quiétude de nos populations, dans les coins et recoins des territoires de Djougou, la réaction sera tout de suite et maintenant. Les forces armées sont résolument décidées de mettre fin à toute tentative de déstabiliser la province. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Louboyan Kanchan Madjoni, nous encourageons les forces armées de poursuivre l'ennemi et le mettre hors d'état de nuire. Nous appelons la population à faire confiance aux forces armées et à soutenir son armée, afin de mettre fin aux aventures de tous les groupes armés qui continuent à s'attaquer à la paisible population. S'ils voudront pas respecter leur acte d'engagement.
Rappelons que samedi, des violents combats ont opposé les groupes armés Codeco et Zaïre dans la localité de Pluto à Ituri. 13 miliciens des Zaïre et 7 de la Codeco ont été tués, ainsi que 6 militaires des FRDC alors que l'armée tentait de rétablir l'ordre dans cette localité. Au Nord Kivu, la fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie de la population de la ville de Goma. Déclaration de l'autorité urbaine ce dimanche lors d'une cérémonie de présentation des présumés criminels et bandits qui insécurisent la population. Parmi eux, un récidiviste arrêté pour la troisième fois pour des actes de criminalité. Le maire de Goma exhorte les autorités judiciaires à faire preuve de rigueur dans l'examen des dossiers de criminalité et de banditisme en évitant d'accorder trop facilement la liberté provisoire aux accusés. Rosalie Zawadi nous en dit plus.
Chaque présumé bandit a été présenté, relié à un fait de criminalité précis. Ici, un officier de sécurité présente devant les maires un membre du groupe.
Celui-ci a été dénoncé à partir du quartier Mapendo. Être en connivence dans un groupe de voleurs à main armée, il détient l'arme AK-47 et un revolver de 9 mm. Jusque-là, les enquêtes continuent.
Parmi les présumés bandits présentés ce dimanche, un militaire des FRDC, ce que regrette l'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin.
Nous étions choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma et il y a eu recrudescence. Mais Dieu merci, nous avons mis la main sur les auteurs de meurtre à Keshero. Et l'auteur, c'est ce militaire de Satan 2. Et son compagnon, c'est un mépris de justice. C'est la troisième fois qu'on venait de l'arrêter. Je pense cette fois-ci, la fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie des gens de Goma.
Le maire de Goma souhaite une collaboration avec les autorités du territoire voisin de Nyiragongo pour mieux traquer les personnes impliquées dans des actes d'insécurité dans sa ville. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, toujours au nord Kivu, des combats sont signalés ce dimanche matin à Kirumba, dans le territoire de Lubero. Des sources locales rapportent que des combattants Wazalendo auraient lancé une attaque contre les rebelles du M23 qui occupent cette agglomération depuis plus d'un mois. Des tirs à l'armes lourdes et légères ont été entendus depuis 5 heures ce matin, heure locale. Selon un membre de la jeunesse locale contacté par Radio Kapi, ces tirs étaient localisés vers les centres commerciaux de Kirumba, mais aussi les marchés centrales et les cartes. C'est vers 9h locale que la population qui s'était terrée chez elle a commencé à sortir lorsque ces combats ont cessé. Aucun bilan de ces affrontements n'est connu jusque-là. Sans trop de précision, l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, dit être au courant de ces accrochages. Vous le savez déjà, il y a quelques jours, les États-Unis ont annoncé une trêve humanitaire de 2 semaines dans la zone des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise à l'est de la RDC. Tout le monde en parle, mais concrètement, qu'entend-on par trêve humanitaire et qu'est-ce qui est déjà fait sur les terrains à ces stades? Bruno Lemarquis, chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire en RDC, explique au micro de Sadiki Aboubakar.
Alors, trêve humanitaire, c'est-à-dire que les armes se taisent pendant ces 2 semaines et elle doit servir à donner de l'espace aux humanitaires et à faire baisser le niveau de risque qui pèse aussi sur les humanitaires. Il y a beaucoup de risques pour opérer dans certaines zones de conflit, donc pour que l'aide puisse arriver. Donc les humanitaires ont appris la trêve comme tout le monde le jour où elle a été annoncée. Donc il faut de la planification ultra rapide pour qu'on puisse voir quels sont les partenaires qui sont encore dans les zones d'accès, parce que certains partenaires avaient dû quitter certaines zones à cause du conflit. Dans le territoire de Lubero. Donc qui sont-ils? Qui peut revenir? Qu'est-ce qu'on a comme stock prépositionné? Quelles sont les populations accessibles qui ont le plus de besoins? Et donc c'est sur ça que les partenaires humanitaires sont les plus mobilisés en ce moment.
Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction du Bureau des coordinations des affaires humanitaires des Nations Unies à Beni pour connaître les actions déjà menées en faveur des déplacés depuis l'annonce de cette trêve. Dans la province de Lomami, lancement ce samedi dans le territoire d'Engandanjika des travaux de lutte anti-érosive au site Outou et d'entretien de la route provinciale Chukui-Engandanjika, long des 45 kilomètres. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province de Lomami, Iron Van Kalombo, en présence du président de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux, de la délégation du conseil d'administration et de la directrice générale adjointe du FONER, Fonds d'entretien routier. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les travaux de lutte anti-érosive s'effectuent sur le site Outou et ceux d'entretien de la route provinciale Chikuingandanjika partent de l'hôpital général de référence de Ngandanjika jusqu'à la grande place Bwangando. Le directeur provincial de l'Office des routes Lomami a indiqué que ces travaux sont financés à plus de 800 000 dollars par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier FONER. Il a par ailleurs précisé que son service a bénéficié d'un acompte de 50% pour le démarrage de ces travaux qui seront contrôlés de bout en bout par le Bureau technique de contrôle BTC. Selon ingénieur Guy Bravo Ngoy, les travaux consistent à faire le reprofilage rapide, la couche des roulements en matériaux sélectionnés, la construction des caniveaux rectangulaires, la construction des collecteurs principaux sur une distance de 700 mètres, la construction des 3 dallos ainsi que la construction des dissipateurs d'énergie. Le gouverneur de province a appelé la population à la vigilance et à l'accompagnement de l'équipe qui exécute ces travaux. Iron Van Kalombo Musoko a également exhorté l'Office des routes à respecter les normes et le délai de 4 mois imparti pour ces travaux. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les programmes d'éducation pour la protection et la conservation de la nature, PCN, sensibilisent les habitants du bloc Moussa Bala au quartier Plateau Médical sur les reboisements. À cet effet, cette ONG de la société civile environnementale leur a distribué hier samedi des plantules pour cette opération, laquelle va s'étendre dans d'autres entités de la ville de Kisangani. Les points avec Jacques Mkonkole.
Ces plantules au nombre de 250 ont été distribuées aux jeunes, aux adultes et même aux enfants de moins de 10 ans. Ce sont essentiellement des plants de manguier, avocatier, mandarinier et acacia qui devront être répiqués dans cette partie située à l'ouest de la ville dans la commune Makiso. Joseph Loingo, coordonnateur de cette ONG environnementale, déclare que cette action est une réponse par rapport au communiqué de la ministre de l'Environnement et Développement Durable du mois de mai dernier demandant à chacun de reboiser un arbre par mois.
L'objectif de cette activité était de sensibiliser les bénéficiaires à l'éducation environnementale ainsi qu'à la culture de reboisement des arbres fruitiers et autres pour lutter petit à petit contre les effets du dérèglement climatique.
Le chef de bloc adjoint présent à cette activité salue cette initiative et plaide par ailleurs pour sa continuité, pour, dit-il, permettre aux habitants de cette partie de la ville de profiter des effets bénéfiques des arbres et surtout de consommer des fruits à l'avenir. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Zongo, ville au nord-ouest de Guémena dans le sud d'Oubangui, la population s'est plainte de la cherté de la vie. Une situation consécutive au franc CFA qui supplante la monnaie nationale dans les transactions. Par suite de l'inflation du franc congolais, plusieurs articles sont en hausse sur les marchés. Les prix restent plutôt fixés par rapport à cette devise étrangère, y compris d'autres services publics ou les taxes qui sont perçues en franc CFA. À ces propos, les parlements de jeunes de Zongo a lancé CNSOS ce week-end. Son premier vice-président Jean Vianney Dodo demande au gouvernement de faire respecter la décision d'indexation des prix en monnaie nationale.
Jadis au marché, un verre du riz se vendait à 200 francs congolais. Mais aujourd'hui, ces mêmes verres-là, ça se vend à 1000 francs congolais. Ça veut dire que 200 francs CFA égale à 1000 francs congolais. Si vous avez besoin de 2 verres du riz, vous devez donner 2000 francs congolais. Donc pour vivre à l'aise, tu dois avoir les francs CFA que les francs congolais. Et cette politique a fait à ce que même les services étatiques, l'État a mis les taxes en francs congolais et ils en profitent pour taxer en francs CFA. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils te taxent à francs CFA, ils vont les soirs changer les francs CFA qu'il a eu en francs congolais pour retirer sa part et aller verser ce que l'État a demandé à francs congolais. Ce qui fait que c'est la population qui en paye la conséquence. Alors la population sait que c'est l'État qui lui demande à franc CFA. Il est obligé de payer à franc CFA. Si cette politique a changé que toutes les activités étatiques devaient se faire en franc congolais, moi je vais demander que l'État prenne ses responsabilités. Parce que réguler les francs congolais par rapport au franc CFA, ça ne dépendra pas de la population. C'est l'État qui pouvait en décider.
Actualité internationale.
Au Kenya, découverte de nouveaux corps dans la décharge de Mukuru. Samedi, les policiers ont découvert 5 nouveaux sacs contenant des dépouilles dans une carrière transformée en décharge. Les bilans du drame de Mukuru s'élèvent à au moins 8 victimes, toutes des femmes. C'est ce qu'a annoncé dans la matinée de ce dimanche 14 juillet lors d'une conférence de presse Douglas Kanja, le chef par intérim de la police nationale.
L'invité.
Le maire de Goma a présenté ce dimanche matin un groupe de présumés criminels. Ceci après une semaine difficile dans la ville, semaine marquée par des tueries, des cambriolages et des tirs nourris la nuit dans plusieurs quartiers. Quelle analyse fait le maire concernant la situation sécuritaire dans sa juridiction? Le commissaire supérieur principal, Kapent Kamand Faustin, répond dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur le maire de Goma, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous venez de présenter des bandits armés. Ce n'est pas la première fois. Quelle est la particularité de cette présentation ce matin?
C'est un cas de flagrance qui a jeté la ville en émoi. Tout le monde était bouleversé pour avoir subi 3-4 morts en dehors de ceux qui étaient lynchés au camp Lushagala dans le phénomène sorcellerie. Mais les faits criminels de braquage, de cambriolage, ça créait encore un désespoir dans la ville de Goma. Mais si nous nous sommes permis de vite réagir, c'est le résultat que vous venez de voir ces jours. Il s'agit pratiquement de 3 bandes de criminels. La première bande est constituée de assassins de nos compatriotes au quartier Keshero avant-hier, avec leur complice qui gérait les armes dans sa maison. Ils ont reconnu leur forfait et ils sont entre nos mains. Mon regret, c'est d'avoir arrêté ces gens après leur forfait. Et pourtant, on pouvait éviter leur mort. Parce que lorsqu'on est en prévention, il faut anticiper certains événements par un bon renseignement. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons perdu les compatriotes. Mais les services ont quand même fait un effort pour avoir démantelé ces réseaux.
Parmi les personnes présentées ce matin, il y en a une qui vient d'être présentée comme bandit pour la 3e fois. Pourquoi elle se retrouve encore en circulation alors qu'à chaque fois elle est présentée dans les groupes des malfrats?
C'est délicat pour nous, mais j'invite seulement l'auditorat à prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a certains de nos responsables animateurs de l'appareil judiciaire, par le petit mot « liberté provisoire », mais l'homme ne change pas. Moi, je pense que cette fois-ci, impliquer au premier rang dans l'assassinat au quartier Keshero, on ne va plus les libérer, j'en suis sûr.
Et qu'en est-il de plusieurs autres personnes arrêtées dans le cadre de l'opération Safi Chamoudji?
Objectivement, ceux qui étaient arrêtés pendant cette période de l'opération Safi Chamoudji de Goma, ils sont encore en prison. Raison pour laquelle nous faisons le plaidoyer auprès de la haute hiérarchie du pays, que ces gens soient déférés dans d'autres prisons, dans d'autres provinces. Et cela va essayer de contribuer à l'assainissement de la sécurité dans la ville de Goma. D'autant plus que nous sommes dans une zone opérationnelle. La ville est presque encerclée, mais nous nous battons aussi pour assainir l'insécurité dans la ville de Goma.
Mais ces derniers jours, en tout cas la semaine qui s'achève, a été particulièrement difficile. Selon vos analyses, qu'est-ce qui est à la base de cette montée de l'insécurité à Goma où la population ne dort plus calmement?
Les bandits que nous venons d'arrêter depuis un certain temps, ce sont des militaires qui sont en divagation. Raison pour laquelle nous avons insisté auprès de la haute hiérarchie de la province afin qu'ils fassent le plaidoyer auprès des commandants à différents échelons, brigades, bataillons, de mieux gérer leurs hommes. Ça, c'est très important. Et la deuxième bande était constituée d'un militaire qui s'est donné le luxe de vendre, de faire louer les armes et les munitions aux bandits à main armée. Ça, c'est criminel. On ne peut pas accepter ça. Troisième bande, c'est les gens de commun des mortels qui font presque les cambriolages dans la ville de Goma. Vous avez vu l'appareil télévision et puis d'autres effets. Dans la troisième bande, il y a aussi un élément APCLS qui se dit Muzalendo. Lui, en état d'ébriété sous commandement de son chef qui est en cavale, a fait la musique en tirant des coups de balle pendant 2 heures presque dans la ville de Goma. Alors, dissipation des munitions, moi je crois que la rigueur de la loi sera sur son cas.
Comme autorité urbaine, quel est votre message aujourd'hui à la population de Goma qui a très peur du niveau de l'insécurité qu'on a vécu cette semaine?
D'abord, c'est la vigilance et aiguiser aussi la culture des dénonciations. Si on n'a pas le renseignement à temps, comment on va opérer? C'est leur contribution, c'est leur participation à ce que nous puissions bien mener les opérations dans la ville. Et d'autre part, nos amis qui ont le pouvoir sur le territoire de Niragongo, s'ils peuvent faire les opérations simultanées avec nous, ça sera pédagogique.
Monsieur le maire de Goma, je vous remercie.
Merci madame.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information sur Radio Kapi. Merci à Jacques-Yves Molima et Alain Rung Mouchinge qui l'ont respectivement supervisé et coordonné. Merci également à Polydor Basunga qui a assuré sa mise en onde. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.